de chaque enfant de Dieu de ressembler au Seigneur Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Alléluia. Il n'y a que quelques dizaines qui ont dit Amen. J'espère que ceux qui se sont tus, ils sont d'accord. Ressembler au Seigneur Jésus. Je ne voudrais pas vous décourager, ce n'est pas le but. Mais permettez-moi quand même de vous dire, la méditation portera un peu sur cela. Ressembler, mais nous le comprenons tous certainement très bien, ressembler au Seigneur Jésus, ce n'est pas facile. Bien sûr, on ne parle pas de ressemblance physique, c'est impossible, mais de ressemblance intérieure, qui, par le Saint-Esprit, fera que par nos actes, nos actions et nos paroles, nous serons alors ressemblant au Seigneur Jésus. Et c'est à cela que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, tous appelés. Et ressembler au Seigneur, cela n'est pas facile, mais c'est faisable avec l'aide et l'action du Saint-Esprit dans notre cœur et avec ayant en nous le désir sincère et véritable de lui ressembler. Alléluia. Ce qui implique ce que nous allons expliquer avec la parole de Dieu, et je lirai ce matin plusieurs textes dans la Bible, ce qui implique que vous et moi, devant le Seigneur, nous lui présentions un cœur parfait. Ce n'est pas M. Asquith qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors on va lire déjà quelques textes et on va essayer d'être assez explicite pour que notre désir soit, plus que jamais, d'avoir un cœur parfait, pas seulement aujourd'hui, mais jusqu'à la fin de notre vie, afin que dans cette perfection, nous obtenions la promesse qui nous a été donnée et la promesse que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, et je dirais par Jésus-Christ, c'est la plus belle des promesses que nous pouvions recevoir, c'est la vie éternelle. Alors on va lire d'abord dans l'évangile de Matthieu, autant commencer par des paroles du Seigneur Jésus, ce qui est très important, Matthieu chapitre 5 et verset 48e, où il est écrit ceci. Vous avez trouvé, ce n'est pas difficile, hein, Matthieu. Je vous lis les paroles de Jésus. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Et là déjà, on commence à se faire un examen de conscience intérieure. Et la question qu'on devrait déjà se poser en introduction et non pas en conclusion, c'est: suis-je parfait comme le Seigneur est parfait? Et ajouter peut-être: comme il me le demande. Ce n'est pas une religion qui vous parle là. Ce n'est pas un homme, je vais dire humain si vous voulez bien me comprendre, mais c'est le Fils de Dieu qui parle et qui dit à ses disciples, à ceux qui le suivent, pas seulement aux 12, mais à ceux qui le suivent, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ce qui veut dire en clair que sans la perfection, dira l'apôtre Paul, si ma mémoire ne me trahit pas, que sans la perfection, nul ne verra le Seigneur. Ce que veut dire que la vie d'un enfant de Dieu doit toujours être à la recherche de la perfection. Perfection céleste. Ensuite, bien sûr, dans la vie journalière, nous devons aussi rechercher la perfection dans notre travail, enfin dans tout ce que nous faisons. il faut mettre en exergue la perfection, toujours faire le meilleur. Mais le meilleur des meilleurs, c'est de rentrer dans le ciel. Et ça, il faut se perfectionner tous les jours. Amen. Et ne pas tomber peut-être sur ces arguments ou ces pensées qui virent et qui disent eh « ben tiens, lui, il le fait, je peux le faire ». Mais si lui ne rentrera pas ou elle ne rentrera pas dans le ciel parce qu'elle manque de perfection, je ne suis pas obligé de faire comme lui ou comme elle. La Bible me dit de faire comme il a fait. C'est mon exemple. Et c'est lui que je dois imiter. Ensuite, eh bien, la Bible nous dit que chacun supportera le poids de ses actions, de ses paroles. Mais ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu, au jour où nous comparaîtrons devant lui. Et ceux qui seront trouvés parfaits entendront de la part du Seigneur cette finalité, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Un deuxième verset qui vient confirmer celui-ci et un peu les propos que nous venons de lire dans l'épître de Jacques. Au chapitre 1er et versets 2 et 4. Écoutez bien, c'est Jacques qui parle, donc un disciple du Seigneur. « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Et là, tout le monde dit « Alléluia !» Hein ? Enfin, je dirais que c'est peut-être pas toujours le cas, mais dans les épreuves, ne jamais s'opposer à la volonté de Dieu parce qu'elles nous sont bénéfiques. Parce qu'il vous aime. Et j'entends quelqu'un qui dit, s'il pouvait m'aimer un peu moins. Il vous aime. Et quand l'épreuve arrive, il la connaît, il la sait, et parfois, c'est lui qui l'admet. Hein? Il y a quelques jours, en soirée, j'ai fait une méditation qui est venue directement d'en haut et qui a parlé de Job. Pour ceux qui étaient là, ils doivent s'en souvenir. Alors, je voudrais déjà vous dire qu'on dit « pauvre Job ». Mais Job n'était pas pauvre. Hein? Il a été pauvre parce que Dieu l'a permis pendant un temps. Et les épreuves qu'il a suivies d'une manière successive ont été terribles. Jusqu'à sa femme, je reviens un petit peu dessus, jusqu'à sa femme qui lui dit « maudit Dieu et meurs !» Et Job de dire dans toute sa détresse, dans toutes ses afflictions, ses douleurs, ses peines qui l'accablaient, il répondra « j'ai reçu de Dieu ce qui est bon, je peux recevoir ce qui est mauvais ». Que le nom de l'Éternel soit béni. Ça fait une sacrée différence des fois. Hein? Je ne sais pas si on est toujours enclin, quand on est dans l'épreuve, de dire que le nom de l'Éternel soit béni. Et pourtant, on devrait, parce que chaque jour, nous apportons dans nos souffrances au Dieu les difficultés que nous connaissons, les épreuves que nous connaissons, les maladies que nous connaissons, tout en sachant que ce Père Saint manifeste sa gloire, sa force et sa puissance au travers du nom de Jésus. Et quand il agit, c'est la bénédiction. Et dans toutes nos épreuves, il est présent. Alléluia. C'est pour ça qu'au milieu de l'épreuve, Job dira, « Je sais que mes yeux le verront et pas ceux d'un autre. » Ce qui veut dire qu'il n'a pas dévié en aucun moment de sa confiance à Dieu, même s'il s'est posé quelques petites questions. Vous voyez ? Soyons des hommes qui recherchent et des dames qui recherchent en toute situation, en toute occasion, le contact avec Dieu afin que nous gardions en tout temps, par sa grâce et par notre désir, un cœur parfait, une vie d'enfant de Dieu qui lui soit agréable. Et à partir de cela, des fleuves de bénédiction descendront. Et regardez ce qu'il écrit au verset 2, « Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfait. C'est écrit. Et accompli, et qu'il ne vous manque de rien. Amen. Ce qui veut dire en clair que même dans l'affliction, je dois demeurer avec un cœur parfait. Amen. Ça va jusque-là? Alors, je vais lire un dernier verset de 2 Corinthiens. Et ça, c'est que, je veux dire, l'entrée. Hein. 2 Corinthiens, chapitre 13 et verset 11. Il faut toujours étayer la pensée que Dieu donne. Regardez ce qui est écrit, 2 Corinthiens 13, 11. « Au reste, frères, soyez dans la joie. » Merci Seigneur. Tendez à la perfection. Ou, si vous voulez changer le verbe, c'est aussi rechercher la perfection en Dieu. Et ensuite, consolez-vous, ayez en une même pensée, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Si c'est adressé à l'église de Corinthe, gloire à Dieu. Mais ce même message est adressé à nous par le Saint-Esprit pour nous dire « Soyez en paix entre vous » et pour être en paix, « Soyez parfaits ». Recherchez la perfection. Alléluia. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que tous ceux qui rentreront dans le ciel, et nous le souhaitons à tous ce matin, nous rentrerons dans un lieu parfait. Et que rien d'imparfait ne rentrera dans la présence de Dieu. Donc, Seigneur, aide-nous à rechercher la perfection, à être parfait à tes yeux, en toute heure et en tout moment. Car en fait, un cœur parfait, c'est ce que Dieu attend de chacun de nous. La question qui se pose, et on va l'étayer, c'est qu'est-ce qu'un cœur parfait? Alors chacun peut avoir une explication qui soit bonne. Mais penchons-nous sur la parole de Dieu pour ne pas dévier et bien comprendre. Alors un cœur parfait, je n'ai pas cité tous les versets qui se rapportent à cela, mais je dirais en résumé, c'est un cœur pur, intègre, incorruptible, sans partage, qui se plaît à rechercher la perfection. Et j'ajoute que rechercher la perfection, vu ce que nous venons de dire, c'est un cœur en fait qui aime Dieu. Vous aimez Dieu? Alléluia! Mais avec aimer Dieu, il faut aussi mettre le mot ou le verbe obéissance à la volonté de Dieu. Parce que pour que mon cœur soit intègre, pur, incorruptible et sans partage, il faut que j'obéisse, que j'écoute, que j'obéisse à la parole de Dieu. Pour être agréable à Dieu et pour acquérir la vie éternelle qu'il a promis. Un cœur parfait, c'est un cœur qui lui appartient aux trois quarts. Il y en a qui disent non, non. Ben, ils ont raison. C'est même pas un demi, c'est même pas un quart. C'est entièrement. Il n'y a pas de place pour autre chose. Dans le cœur, doit y avoir un seul qui habite, Jésus-Christ et l'amour de Dieu. Ça fait déjà du tri, ça. Hein? C'est ce cœur qui appartient à Dieu et qui écoute et qui met en pratique sa parole qui accomplira et connaîtra la volonté de Dieu. Car frères et sœurs, nous sommes tous appelés à vivre comme Dieu le désire. Et là, j'ai dit un peu un mot tendre, mais j'aurais dû dire comme Dieu le veut. Le premier exemple qui nous a été donné, entre autres, c'est celui de Jésus-Christ. Dans sa prière qui va précéder sa crucifixion, il va dire quoi à son Père ? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et pourtant, si vous faites bien le détail de cette prière, on sent que pour Jésus, à un certain moment donné, il y a eu la difficulté d'accepter ce qu'il allait connaître. Si tu pouvais éloigner de moi cette coupe de souffrance, me faire pécheur pour sauver un monde de pécheurs. Car quand Jésus monte sur la croix, c'est tous les péchés des hommes qu'il a pris. Pour que celui ou celle qui croit en Jésus-Christ, aujourd'hui, puisse être pardonné, sauvé en accomplissant et en désirant un cœur parfait. Mais il est vrai que dans cette marche d'enfant de Dieu, nous sommes placés devant des difficultés. Mais nous devons dire au Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, et aide-moi à accomplir ta volonté. Et à partir de ce moment-là, la grâce de Dieu est agissante. Et le secours du Saint-Esprit nous est donné pour que nous passions toutes les épreuves par lesquelles nous serons appelés de passer. Mais sachez bien, et je le répète, les épreuves qui nous sont données ne sont pas pour nous décourager, mais pour nous approcher de la perfection divine afin d'être sauvés pour l'éternité. Il est bien écrit, c'est Pierre qui le dit, que l'épreuve, c'est le creuset de notre foi afin de la rendre plus pure que l'or. Alléluia. Bon, je conçois que il faut que je vous précise quelque chose. N'allez pas maintenant jusqu'à dire, Seigneur, je veux que ma foi soit comme l'or, donc envoie-moi toutes les épreuves que tu veux. C'est de la folie. Un manque de sagesse certain. Les épreuves, si elles doivent arriver, elles arriveront dans le temps de Dieu. Mais n'allons pas jusqu'à chercher l'épreuve. N'allons pas faire comme dans certaines religions ou dans certains enseignements. On se prend un fouet pour se fouetter. Ah, Jésus a souffert, j'ai envie de souffrir aussi. Folie! Folie pour ceux qui font pour ces choses et folie pour ceux qui les croient et qui les suivent ou qui les admettent. Pas du tout ça. La parole de Dieu, c'est celle qui nous conduit dans toute la vérité. Et Dieu sait comment il doit agir avec chacun et chacune d'entre nous pour nous amener à la perfection. À la perfection. Dans le Deutéronome, au chapitre 18, verset 13, Dieu dira à son peuple, « Tu seras entièrement consacré à l'Éternel ton Dieu. » Dans la traduction d'Arbi, il est dit sur le même texte, « Tu seras parfait avec l'Éternel ton Dieu. » Déjà, on s'aperçoit dans l'Ancien Testament que Dieu avait demandé à son peuple qu'il soit parfait et qu'il recherche cette perfection. Eh bien, je vous dis qu'aujourd'hui, Dieu n'a pas changé. Mais vous le saviez comme moi. Il ne change pas dans ses promesses, il ne change pas dans ses paroles, il ne change pas dans son enseignement. Et ce que Dieu veut pour le peuple de ce matin, dans ce lieu, mais pour tout son peuple répandu sur cette terre et les membres qu'il a sauvés, c'est que chacun recherche à avoir un cœur parfait qui honore son nom. Alléluia. Dans Luc, au chapitre 10, versets 25-28, un exemple que vous connaissez tous au sujet de ce docteur de la loi qui est venu poser une question au Seigneur Jésus. Alors, je vous dis, pour ne pas louper un mot, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est une très bonne question. Et la réponse est savoureuse. Elle vient du Seigneur Jésus. Je sais que vous la connaissez tous, mais je vais vous la rappeler. Jésus va dire à cet homme, « Qu'est-il écrit dans la loi et qui lis-tu » Et cet homme va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et si vous réalisez bien ces réponses qui sont excellemment justes, ces deux réponses, qui n'en font qu'une en fait, à toutes les deux rejoignent les 10 commandements qui ont été donnés dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël. Vous voyez ? Alors, Jésus va lui dire quoi, d'après vous ? Eh bien, il lui dit, tu as bien répondu. Qu'est-ce qui devait être content, le docteur de la loi ? Ouah, pas une faute, un très bien, 20 sur 20, oui. Mais ce qui est important, ce n'est pas de voir que Jésus lui a dit, tu as très bien répondu, c'est de noter ce qui a juste écrit derrière. Va et toi, fais de même. Pourquoi vous n'avez pas dit Amen ? Parce que ce matin, Dieu ne s'adresse pas au docteur de la loi. Il s'adresse à moi. Mais il s'adresse à vous. Alors, c'est bien de connaître la parole. C'est bien de citer des versets. Parce que c'est bien. C'est fortifiant. À condition de savoir comment on les dit, comment on les place. La parole de Dieu n'est pas celle qui donne des coups. La parole de Dieu est celle qui pense, qui console, qui rafraîchit, qui fait du bien, qui donne le désir d'entendre, qui donne le désir de revenir, qui donne le désir de grandir, donne le désir d'être encouragé. Alléluia. Vous savez que par une parole ou par un verset, vous pouvez sauver une âme et par une autre, vous pouvez la perdre. Parce que le verset sera mal placé. Je ne sais pas si je vous ai dit cet exemple, mais je vous le donne encore, de cette sœur qui était dans une certaine église, qu'elle nous avons vécue aussi avec mon épouse. Et si j'ai bonne mémoire, cette sœur était très, très, très fatiguée. Alors une autre sœur est venue la voir. J'ai rien contre les sœurs, hein. Ouf, je me précise. Hein. Une autre sœur est venue la voir, et s'est montrée peut-être un peu trop spirituelle quand cette sœur a voulu se confier à elle en lui disant « Ouh, je suis fatiguée, je suis malade, je comprends rien, je ne sais pas trop. » Cette autre sœur lui a dit « Si vous êtes malade, c'est que vous avez péché. » Catastrophe. Après, il fallait la récupérer, la brave dame. Attention aux paroles que nous prononçons, que vous prononcez quand vous êtes en discussion avec certains. Ce n'est pas parce que je suis malade que j'ai péché. Hein ? Ouais. Et d'autre part, souvenez-vous aussi qu'il est écrit dans la Bible que Dieu ne regarde pas à l'apparence ni aux connaissances que nous pouvons afficher, mais qu'il regarde au cœur. Il regarde au cœur. Et un cœur parfait sera toujours un cœur consolateur. Amen. Je ne voudrais pas vous déranger, surtout. C'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Un cœur parfait, c'est un cœur qui sert Dieu. Vous voyez, ça rentre dans le plan de ce que nous disons ce matin. Un cœur qui sert Dieu avec sincérité, avec bonne volonté. Cela ne veut pas dire, écoutez bien, cela ne veut pas dire que ce cœur est sans péché. Il n'y a jamais eu dans le genre humain un cœur sans péché. Je dis bien humain, parce qu'il y en a un qui a vécu sur la terre sans péché. Et bien qu'il ait revêtu notre condition humaine, il n'a jamais péché. Et il s'appelle Jésus. Alors, juste un petit parallèle. Si Jésus, en tant qu'homme, est venu sur la terre, tout en étant fils de Dieu, mais je mets en évidence l'être humain, il est bien dit... Il a été tenté, vous citerez le verset, il a été tenté de la même manière que nous sommes tentés. Mais il n'a pas succombé. Il a rejeté la tentation. Et merci Jésus d'avoir rejeté, résisté toute forme de tentation humaine qu'il a pu connaître, car s'il n'avait pas résisté, aucun de nous ne serait sauvé. Parce que c'est dans sa perfection qu'il a pu donner sa vie à Dieu. Eh oui. Alors peut-être quelqu'un est en train de dire, oh oui, mais vous parlez de Jésus, et Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. Je peux vous poser une question? Et vous, chrétien, qu'est-ce que vous êtes? Bon, je vais commencer par les messieurs, excusez-moi. Frère, vous êtes quoi? Pardon? Des fils de Dieu. Et pour les sœurs, c'est des... D'accord. Vous avez donné votre vie à Jésus. Vous avez donné votre cœur au Seigneur Jésus. Vous avez reçu l'Esprit Saint le jour de votre baptême. Donc aujourd'hui, en tant que fille et fils de Dieu, vous avez tous les éléments pour réfuter toutes les tentations. Et si vous rentrez dans la tentation, sans dire « Seigneur Jésus, aide-moi, au nom de Jésus, la tentation, je te mets KO », c'est parce que quelque part, vous avez le désir de l'accomplir. Ça vous titille, ça vous démange, quelle que soit la tentation. Résistez au diable. Et il s'enfuira loin de vous. Parce que c'est lui, le tentateur. Alors, il faut comprendre ces choses. Il n'y a, dans le genre humain, aucun cœur qui est sans péché. Mais je voudrais vous dire, pour vous encourager de tout cœur, qu'il y a ici plein de cœurs purifiés. Purifié par le sang de Jésus-Christ. Et c'est ça qui nous donne le droit de dire « Je suis fils de Dieu et fille de Dieu et par mon engagement, par les eaux du baptême, à l'aimer, à le suivre et à le servir en étant et en m'efforçant de chercher la perfection pour sa gloire et pour ma gloire, le jour où je rentrerai en sa présence pour l'éternité. » Alléluia. Je vous ai dit que je vous citerai ce verset en ce qui concerne Jésus. Hébreux chapitre 4, verset 15, je vous le lis dans Parole vivante. « Au contraire, il a connu toutes nos épreuves à tous égards et il a été soumis absolument aux mêmes tentations que nous. Et pourtant, il est resté sans péché. » Amen. Il a quand même vécu 30 ans, plus 3 ans et demi environ de ministère, et dans ces 33 ans et demi, il a connu la tentation, mais il n'a pas péché. Il a rejeté, il a refusé, il s'est éloigné. Ainsi, nous sommes invités à faire de même. Alléluia. Servir le Seigneur avec un cœur qui lui soit agréable. Et dans le psaume 100, verset 2, il dit « Servez l'Éternel avec joie. » Amen. « Venant devant lui avec des chants de triomphe. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne chantez pas que le dimanche matin. Des cantiques ou des chœurs, chantez dans votre maison, dans votre appartement. Et puis des fois, chantez la fenêtre ouverte. Sans le savoir, vous répandez la bonne nouvelle. Amen. Hein, vous n'y avez pas pensé à ça. Hein, ne chantez pas à tue-tête, hein, autrement vous allez avoir... Mais chantez. Amen. Entre nous, hein, je n'engage que moi en disant ça. Il vaut mieux chanter des cantiques en tant que chrétien, chanter des louanges, que chanter certains chants qui parfois me parviennent à l'oreille par les ondes, des chants de ce monde qui ne viennent et qui ne disent rien, qui ne veulent rien dire, qu'ils sont, excusez le mot que je vais prendre, parfois orduriers. Ça ne devrait même pas être ça dans la bouche des chrétiens. Je n'engage que moi. Parce que pour avoir un cœur parfait, il faut que de ma bouche ne sortent que des paroles parfaites. Et je n'ai pas le temps, je vous dis bien, de lire les versets, hein, mais c'est écrit. Que notre langage en tant qu'enfant de Dieu doit changer, qu'il ne doit pas sortir des mots vulgaires, mais des mots qui louent le Seigneur, ou des mots qui encouragent les gens, des mots qui parlent du témoignage. Bien sûr, je ne vais pas vivre 24 heures sur 24 comme cela. Vous comprenez bien? Mais dès que l'occasion m'est donnée au travail, ou etc., eh bien, je vais parler de Jésus. Amen. Bon, je n'aime pas trop parler de mes expériences, mais il faut quand même parfois les dire. Quand, avant d'être serviteur de Dieu, j'ai travaillé dans les bureaux des Ponts et Chaussées. C'était cool. Ouais. Oui, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais le lundi matin, quand tout le monde revenait donc du week-end prolongé, eh bien, les premières heures, ce n'était pas au bureau, c'était à dire, qu'est-ce que tu as fait, toi, pendant le week-end? Alors, chacun faisait quelque chose. Et inévitablement, on arrivait sur ma personne. Et hey, toi, qu'est-ce que tu as fait dimanche? Eh bien, moi, dimanche, j'étais au culte. Ah bon? Tu vas au culte? T'es chrétien? Oui, je suis chrétien. Bon, ben c'est bien. Et l'après-midi, alors qu'est-ce que tu as fait? L'après-midi, j'étais à la réunion d'évangélisation. Quoi, tu es retourné l'après-midi? Eh ouais. J'étais quelqu'un d'étrange. Hein. Bon, ça a passé. Hein. Le dimanche d'après, tu es allé où? Au culte. Encore? Ouais. Et l'après-midi, alors? À la réunion d'évangélisation. Ah, ah bon, ben, au bout de 3 fois, ils ont arrêté. Hein. Mais ça m'a donné après de parler du Seigneur. À un supérieur, j'ai parlé avec lui. Une fois même, et là je rentre un tout petit peu dans l'intimité, mais c'est comme cela que l'on peut avoir un cœur parfait. J'ai eu des mots avec un supérieur. Mais dans la journée même, pour ne pas dire dans l'heure qui a suivi, dans mon cœur, j'étais repris. Et ça, je ne sais pas si j'en ai parlé à mon épouse. Elle va peut-être le découvrir. Mais j'ai été tellement repris que je me suis levé. Je suis allé carrément vers cet homme. Et je me suis assis devant lui. J'ai dit, monsieur, veuillez pardonner, m'excuser pour ma réaction de colère. Et plus je parlais, plus j'avais les larmes qui coulaient. Plus je lui disais, pardonnez-moi, pardonnez mon erreur. Mais à ce moment-là, je savais que j'étais en train de servir le Seigneur. Et les relations ont été changées après. On est avant tout chrétien et on doit avoir un cœur parfait. Un cœur qui obéit à la parole de Dieu. Un cœur qui fait ce qu'elle nous demande. Et si on a des erreurs, de savoir les reconnaître avec humilité. D'abord devant Dieu, si c'est devant Dieu que l'on pêche. Et d'autre part, si nous avons manqué peut-être entre humains d'être ce que Dieu veut que nous soyons, sachons en toute humilité reconnaître nos erreurs. Et je dirais même dans cette même pensée, n'attendons pas que ce soit l'autre qui vienne vers nous, mais allons vers lui pour lui dire, je te pardonne et pardonne-moi aussi. C'est ça le cœur parfait. Hein, n'allons pas jusqu'à dire, mais c'est lui qui a commencé. Dans la maison de Dieu, il n'y a personne qui commence. Il n'y a que des gens qui s'aiment. Amen. Vous avez entendu comme moi, et je trouve que ça c'est vraiment des agréables informations. Ces deux gars qui se sont disputés, un chauffeur de car et un chauffeur de camion, comment ça a terminé? L'autre, il s'est mis en colère, il est monté dans le car, il a écrasé le bonhomme contre son camion. Mais où on va? pas chrétien, ça, hein? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Un chrétien ne manifeste pas la colère. Il manifeste la patience. Autant que cela se peut. C'est ça le cœur parfait. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est le Seigneur qui vous demande. Alors je vais conclure quand même. Hein. Ça va? Ouais. Chaque fois je fais des trop longs sermons, alors pourtant ils sont là, mais je vais prendre un exemple biblique. Est-ce que vous avez entendu parler de Salomon? Salomon. C'est un homme formidable. Un roi formidable. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on voit les expériences de Salomon, on est... C'est extra. Oui? Mais alors je vais vous dire quelque chose. C'est que quand Dieu parle, mais vous le savez, ce n'est que des rappels. Quand Dieu parle, il ne change pas dans sa parole. On est bien d'accord. Vous savez comme moi que Salomon, c'est le fils de David. Vous savez aussi comme moi que Salomon a eu le privilège de construire le temple parce que Dieu de l'Éternel, puisque David n'a pas eu l'autorisation par Dieu de construire le temple parce qu'il avait du sang sur ses mains. Alors on peut dire que David était un grand guerrier, un grand roi, un grand stratège, conduit par Dieu. Mais le sang, quand vous réfléchissez un petit peu, là aussi je vais dire que je n'engage que moi, je ne veux pas changer les termes, mais il y avait un autre sang que ses ennemis sur les mains. Et c'est celui-là que Dieu sanctionne. Même si Dieu avait pardonné à David, qu'a-t-il fait de grave? Il avait fait tuer comme Uri, exactement. Uri, en le plaçant, lui, David, il n'a pas tué, mais qui c'est qu'il a placé au milieu du combat, en tête du combat, pour qu'il soit, vous le lirez, pour qu'il soit tué. Dieu pardonne. Mais il ne permet pas que l'on désobéisse à sa parole. Alors David n'a pas construit le temple, mais Salomon l'a construit. Maintenant, il faut savoir que quand le peuple d'Israël a désiré mettre des rois à sa tête, quand même Dieu a dit, et vous le relirez chez vous, dans les lois et les ordonnances divines, et notamment je vous cite une partie. Deutéronome 17, 15, 17, c'est Dieu qui parle. Écoutez bien. Lorsque tu établiras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu, tu établiras sur toi un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne fasse pas retourner le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne s'écarte pas et qu'il n'ait pas une grande quantité d'argent et d'or. Vous l'avez lu ça, hein? Dans Deutéronome, au chapitre 17, verset 15-17. Donc c'était une loi que Dieu avait établie pour tous les rois qui allaient se succéder. Et Salomon connaissait ces lois, ces ordonnances. Et quand je regarde la vie de Salomon, alors je vais vous lire quelque chose là. D'abord dans 1 Chronique, chapitre 28, verset 9, parole de David, traduction d'Arbi. « Et toi, Salomon, mon fils, dit David à Salomon, connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur parfait et avec une âme qui prenne plaisir. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toutes les imaginations des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » David est en train d'avertir son fils Salomon quant à son avenir. Et à son avenir royal. pour qu'il perdure dans le temps. C'était des conseils sages. Et laissez-moi vous dire que les conseils de la Bible sont toujours des conseils sages. Encore faut-il les écouter et les appliquer et pas les rejeter. Maintenant, regardez 1 Roi chapitre 11, verset 4, toujours d'Arbi. Et il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ses femmes détournèrent son cœur auprès d'autres dieux. Et son cœur ne fut pas parfait avec l'Éternel son Dieu, comme le cœur de David son père. J'ai une petite question, ça risque de vous faire sourire, pour ceux qui ne le savent pas. Mais savez-vous combien Salomon avait de femmes? Alors, on va être clair et net. Il avait 300 femmes. Mais comme cela ne lui suffisait pas, il en a ajouté 700. 1000 femmes. Il y a des frères qui sont à dire, mais comment ils faisaient? Moi, j'en ai qu'une. Mais l'erreur de Salomon, c'est que quand vous lisez dans la parole de Dieu, Salomon a eu un règne de paix. Mais il a eu un règne de paix par des mésalliances. Parce que Dieu avait interdit les rois, et on l'a lu, de se marier avec des femmes étrangères. Et lui, il est allé en chercher 1000 au milieu de ses ennemis. Et il faisait cela parce que quand il épousait la fille du roi adverse, alors le roi adverse signait un traité de paix. Je ne sais pas si il était content de se débarrasser de sa fille, mais en tout cas, il signait et ils ont gagné le territoire. Oui, mais attention, c'était un piège énorme du diable. Déjà, car le diable est aussi présent dès le livre de la Genèse. Mais Dieu lui a déjà dit, t'es cuit toi, dès le livre de la Genèse. Maintenant, quand je lis cela, je m'aperçois qu'aussi il est écrit ceci. Écoutez bien, et l'Éternel eut de la colère contre Salomon, verset 9 du même texte, parce que son cœur s'était détourné de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui s'était révélé à lui deux fois. Or, ce qui fait les conséquences, c'est pas parce que j'ai pas tout lu, mais il a eu aussi beaucoup d'argent, beaucoup de une désobéissance totale à la parole de Dieu, et il nous est dit que ces femmes étrangères qu'il a épousées lui ont demandé chacune de construire un temple à leur Dieu. Et en plus, avec ces femmes-là, il allait adorer le Dieu, les dieux étrangers, ce que Dieu avait interdit. Il n'a fait que désobéir. Son cœur, on l'a lu, n'était plus parfait aux yeux de Dieu. Il a fait comme les autres. Mais aujourd'hui, ça fait que l'on ne sait pas si Salomon est dans le ciel. Parce qu'il est mort, tout en étant dans la désobéissance. C'est grave. Pourtant, il est écrit, Dieu s'était révélé à lui deux fois. Alors, ne vous inquiétez pas, je termine. Quand on regarde les débuts de Salomon, c'est merveilleux. Au début de sa vie, Dieu lui est apparu deux fois. Il construit le temple et Dieu va lui parler à la fin de la construction du temple. Et il va lui dire, même Dieu, c'est ici, dans ce lieu que tu as construit, que je me rencontrerai avec mon peuple. Mais il a fait des expériences extraordinaires. Non? J'ai l'impression de me sentir seul. Non? Extraordinaire. C'est-à-dire, son commencement de vie avec Dieu, dans la succession du Père, a été un commencement de grande bénédiction. Et même, vous le savez comme moi, il a demandé à Dieu, non pas la richesse, alors qu'il termine avec la richesse, non pas de demander la gloire, mais la sagesse. Et Dieu lui donna la sagesse. Mais là, il n'y en a plus du tout de sagesse. Le commencement était bon. La fin, excusez le mot, la fin est minable. Et vous savez ce qu'il est écrit dans le livre des Proverbes que l'on donne à Salomon ? Il dira, ce n'est pas le commencement qui compte, c'est la fin. Incroyable ! Il est aveugle ou quoi ? Alors, et là, veuillez m'excuser, vous qui êtes là et qui avez peut-être un peu d'âge, mais je ne vais pas m'adresser aux gens qui ont de l'âge, je vais m'adresser maintenant, très en terminant, aux gens qui sont convertis depuis quelques années. Parce qu'au départ, quand on se baptise, waouh, super, je suis baptisé, je suis chrétien. Alors, on est plein de dynamite spirituelle. On ferait tout. Oh, allez, on y va, on fonce. Waouh. Au début. Au milieu, c'est, oh, je ne suis pas trop, je ne suis pas disponible. Et à la fin, moi, j'ai pas envie. C'est bizarre, hein, ça refroidit. Hein. Vous vous souvenez le jour où vous avez été baptisé ? La joie. On était toujours prêt, disposé à faire. Aujourd'hui, ça devient difficile. Hein. Ça veut, enfin, je dis pas ça pour Annecy. Hein. Je veux rester ami avec vous, moi. Mais je sais que dans certains lieux, ça devient même difficile pour trouver du monde pour faire le ménage. C'est simple, hein? Trouver du monde pour faire la prospection dans les villes. Ça y est, ça y est plus. Je ne vais pas non plus rentrer dans les détails de ma vie de pasteur, mais je me suis retrouvé à faire le ménage de des grandes salles, maçon. Travailler pour construire une église, aller en prospection, même tout seul. Une fois, il y a un frère qui me dit, ah, vous qui n'avez rien à faire, faites-le. Le Seigneur a dû lui parler dans la nuit parce que le lendemain, il était là. Eh, Dieu est bon, hein. Mais enfin, on n'était que deux. Mais la mission, elle a été bénie. Alléluia, c'est là l'essentiel. Est-ce que nous sommes prêts à servir avec un cœur parfait, sans rouge pété, mais en faisant ce que le Seigneur nous demande? Alors je termine. Là, je vous dis, vous pouvez dire amen, parce que c'est un miracle. Hein. Attendez, voilà. Philippiens 3, 12. Et là, c'est Paul qui le parle et qui dira, « Ne croyez pas que je sois parvenu au but. » Donc, tout ça pour vous dire que, frères et sœurs qui êtes baptisés depuis quelques années, veillez à toujours être vaillants. Parce que vous avez remarqué que c'est dans sa vieillesse qu'il a chuté ou qu'il a chuté. Si nous disons j'ai tant d'années de conversion, bénissez le Seigneur et continuez à être jeune dans le Seigneur. Les eaux font souffrir des fois, mais trouvez un temps pour aller, pour servir dans d'autres situations, dans d'autres lieux. Moi j'ai pris deux exemples comme ça en passant, mais soyez toujours prêts à servir le Seigneur. N'oubliez jamais, frères et sœurs, que quand on est fidèle dans la foi, on ne vieillit pas, on rajeunit. Pas physiquement, mais intérieurement. Quoique physiquement, on a toujours un éclat de paix sur les visages. Amen. Eh oui, des fois je dis ceci, ça va peut-être vous faire sourire, et même si vous l'avez entendu, on dit que l'aigle... il rajeunit. Hein? Et je dis cette petite amusette, je dis l'aigle, lui, il rajeunit, pourtant il ne perçait plus. Ah. Oui, mais le privilège de l'aigle, c'est qu'elle repousse. Tandis que moi, peut-être, comme il dit le frère, je ne déplume, mais je grandis dans la jeunesse de la foi. De ne pas perdre la foi, de garder la foi, de pouvoir toujours avoir, avec sa grâce, un cœur parfait devant sa face. Quand il parle, j'obéis. C'est ça. Et si parfois il demande des choses difficiles, eh bien moi je vais dire quelque chose ce matin, Je bénis le Seigneur de m'avoir donné mon épouse. Parce qu'elle a beaucoup admis de choses pour le service de Dieu. Et dans tous les combats qu'on a traversés, dans les maladies que mon épouse a connues, et si aujourd'hui elle est là, c'est parce que Dieu est intervenu plusieurs fois dans sa santé et qu'aujourd'hui elle est encore au milieu de nous. Je bénis Dieu et je bénis le Seigneur de m'avoir donné une telle épouse. Alors je terminerai en vous disant ce que dit l'apôtre Paul. Je ne pense pas avoir déjà remporté la palme. La perfection est encore devant moi. Je ne l'ai pas encore atteinte. C'est Paul qui dit ça quand on voit son ministère, c'est incroyable. Je ne l'ai pas encore atteinte, mais je poursuis ma course pour essayer d'y parvenir et d'en saisir le prix qui est la couronne de la vie. Ce qu'il dira à Timothée, la couronne de la vie. N'est-ce pas pour cela, et frères, gardez et sœurs, gardez bien ça sur votre cœur ce matin, déjà, ça serait très positif. N'est-ce pas pour cela que Jésus-Christ s'est saisi de moi? Pour l'aimer, pour le suivre, pour le servir, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient peut-être les tempêtes par lesquelles je dois passer, mais que jamais, jamais, je ne me détache, comme dira l'apôtre Paul, de l'amour de Dieu. Qui pourra me détacher de l'amour de Dieu? Ni la vie, ni la mort, ni les puissances adverses. Non, rien ne pourra me détacher de l'amour de Dieu. Puissions-nous saisir cette pensée ce matin, ce que Dieu veut, pour vous comme pour moi, c'est un cœur parfait, qu'il aime, qu'il le serve, de tout son cœur et avec joie, que le nom de l'Éternel soit béni. On prie, et puis je laisse la place à Michel.